Les Cascodeurs Podcast, épisode 287. Celui qu'Antonio avait oublié. Enregistré le 21 octobre 2022.
Pour soutenir les Cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs.
Bonjour tout le monde! Bienvenue pour cet épisode 287 des Cascodeurs. Nous sommes le 21 octobre. Il fait... Ah bah il a arrêté de pleuvoir, il fait beau.
Ah ouais, là d'un seul coup il y a un brin de soleil, mais t'as l'air ça flotter.
Quand on est enfermé, quand j'étais dehors avec le chien, obligatoirement, c'était la pluie et les temps de... Bref.
Et l'épisode 287, c'était pas un coprocesseur arithmétique, ça, pour le 286? Bon, après, moi, j'ai commencé, le mien, c'était plutôt un 386, mais j'avais pris un 387. J'avais commencé sur un 1512, un Amstrad PC, avant encore, pour les premiers.
Ouais, 68 000 pour Atari, et ensuite, moi, c'était plutôt du 1486 sur PC, ouais. Donc, on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore, ouais, il y a encore de la marge.
Voilà. Donc tous les deux aujourd'hui, Arnaud et Guillaume, pour vous faire les news du mois d'octobre, et on va commencer comme à l'accoutumée par les langages. Et c'est plus simple désormais avec le nouveau rythme des releases, on peut quasiment régulièrement sortir des nouvelles versions de Java tous les 6 mois.
Ouais.
Et donc là, Java version 19 déjà est sortie.
Ouais. Alors après, il y a toujours les mêmes trucs qu'on mentionne quand même à chaque fois, hein, que ce soit les record patterns qui sont en preview, le support de risque, les instructions risque, les foreign functions et memory API, ça c'est toujours en preview, les virtual thread, donc Loom et tout ça, c'est encore en preview, vector API, alors là on en est quand même à la 4e incubation, donc ils travaillent encore pas mal dessus. Le pattern matching pour les switch, c'est aussi une 3e preview. Donc ils ont mis un petit peu. Alors, du coup, je sais plus, ça fait partie du JEP, parce que j'ai lu un JEP justement sur le pattern matching et pas que pour les switch. Donc c'est peut-être pour ce qui va arriver après, où ils sont aussi en train de regarder comment étendre encore le pattern matching aussi pour par exemple les records, ou même mettre dans des boucles forts. Donc tu vas pouvoir faire la même chose que tu fais dans les switch avec les composants et sous-composants, même des trucs imbriqués. Ça a l'air vraiment pas mal. Ils vont vraiment le mettre de manière assez pervasive un petit peu partout en Java. Ça, je trouve ça vraiment plutôt cool. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc ça doit pas être dans ce JEP-là, ça doit être dans la suite, je pense. Structured concurrency. Donc pour reprendre un petit peu le contrôle un peu plus précis sur... la concurrence donc quand tu fais plein de trucs en concurrent, là au moins on sait qui se termine avant quoi, etc. Donc on organise un petit peu mieux ce qui se passe en parallèle. Alors j'ai pas vu d'ailleurs le talk de donc il y avait Devox Belgique, c'était la semaine dernière, avec Rémi et puis José, mais ils ont donc les vidéos sont en ligne de Devox Belgique. Donc si vous voulez revoir, là ils ont recouvert aussi tous ces sujets-là. Et la première fois que j'ai vu Structured Concurrency, par contre, c'était à Devox France. Et ouais. Donc on a mis quelques liens aussi avec il y avait InfoQ donc avait couvert cette nouvelle version. Il y avait aussi Fuji qui couvrait cinq des grosses features. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour le JDK 19, oh là là, il est majeur du coup là.
C'est ça. En France, il est majeur.
Voilà, mais il peut pas encore boire de bière aux États-Unis.
C'est ça, j'espère. Ouais. Toujours dans l'écosystème Java, on a une proposition dans Leiden.
Comment on prononce d'ailleurs Leiden?
Ah, je sais pas. Oui, alors en anglais, je dirais Leiden. En anglais, avec un accent anglais.
Je sais pas trop.
Donc sur les condenseurs,
condenseurs,
oui c'est ça,
une faute dans pas les condensateurs,
condenseurs, et surtout sur le décalage d'exécution dans le temps, donc comment adapter au mieux sans aller vers GraalVM, sans être au point de GraalVM, mais essayer de voir ce qu'on peut faire en amont de l'exécution et optimiser, ou ce qu'on peut déporter au run et le faire plus tard.
Et du coup donc Encore une fois, comme tu le disais, hein, c'est pas, on va dire que c'est complémentaire hein, à GraalVM, hein, on dirait, dans ce qui est expliqué là par Mark Reinhold. Donc ça reparle aussi bien effectivement hein, d'AOT, de compilation ahead of time, mais aussi des choses qui existaient déjà dans le JDK, là par exemple le class data sharing. Ça peut être aussi, donc quand il dit condenseur, c'est condenser, c'est aussi condenser le code, donc aussi réduire du coup ce que tu livres, donc que ce soit comme dans, comment il s'appelait l'outil, c'est G-Link, donc il faisait des distributions plus petites. Hein. Donc voilà, il liste effectivement toutes les facettes qui peuvent permettre de, entre guillemets, condenser votre code et votre application Java, donc que ce soit en réduisant la taille du JDK qui va avec, du CDS pour démarrer plus rapidement quand et donc c'est tout un ensemble de choses qui permettent. Et du coup, ce que je sais pas trop, ce que j'ai pas compris forcément, c'est est-ce que chaque utilisateur ou celui qui va packager les applications va avoir un petit peu le contrôle ou pas, parce qu'il parle aussi de fichiers de configuration à charger. Donc peut-être que pour certains types de workload, c'est, j'ai encore plein de mots en anglais, de comment ton application va tourner au quotidien. Peut-être qu'effectivement il y aura des choses qui auront plus d'impact ou plus d'importance que d'autres, donc on n'est pas obligé de mettre tous les curseurs à fond pour obtenir éventuellement les meilleures performances. Donc ça reste un petit peu au niveau là ce qu'il a cité sans forcément rentrer dans le détail, mais donc à voir. Et ce que je suis curieux de voir aussi, c'est comme quand même en complément de GraalVM, ou est-ce qu'il y aura quand même un peu d'overlap ou pas du tout, à voir, je sais pas trop encore. Mais ça fait un moment, Leiden, ça fait déjà 3-4 ans qu'ils en avaient parlé, annoncé, et il n'y avait pas eu grand chose en fait, pas beaucoup d'avancées.
Non, pour l'instant ça n'a pas trop été visible, mais c'est vrai que ouais, cette partie au global de l'application, parce que c'est vrai qu'on pense toujours à optimiser, pré-optimiser ou post-optimiser notre propre code, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que notre propre code, on embarque toujours des tonnes de librairies, et il faut savoir à quel point on peut aussi appliquer ces mêmes principes sur les librairies, enfin sur tout ce qu'on utilise si on a besoin de rapidité au démarrage ou pas, etc., etc. C'est vrai que c'est des sujets qui sont intéressants. Tout à fait. Pour continuer pour aller vers GraalVM cette fois, on n'y est pas, mais là ça y est. Donc GraalVM JIT et Native Image rejoignent le projet OpenJDK. Donc ça y est, ça a été annoncé, mais on n'a pas vu d'infos.
Ouais, c'était juste un tweet, l'annonce. Alors j'étais là, je me disais, attends, je vais mettre un lien avec un article, mais j'ai pas vu l'article. Et pourtant, donc là, il y a eu, c'était aussi cette semaine-là, il y avait par exemple DevFest Nantes. Là, je reviens de DevFest Nantes, qui était hier et aujourd'hui. Il y avait Java One, et du coup je me suis dit on va voir le détail à Java One, mais j'ai vu que ce tweet. Alors je sais pas, j'ai peut-être raté un truc ou ça va arriver, je sais pas. Donc oui, au lieu que ce soit un cycle de vie propre à GraalVM, là du coup ça va rejoindre le train des releases de OpenJDK. Et donc après, je sais pas si ça change des choses aussi côté licence, termes d'utilisation, etc. Ça, j'ai pas regardé.
Non, puisqu'on n'a pas les infos, mais c'est les bonnes questions, ouais.
Mais si ça rejoint OpenJDK, logiquement ça va suivre les mêmes les mêmes principes. Donc mais je pense qu'au final ce sera peut-être, alors oui, et aussi petite précision, donc c'est GraalVM CE, hein, Community Edition, Oracle Labs, vu qu'Oracle Labs c'est un petit peu différencié d'Oracle, Oracle Labs continue de faire comment il s'appelle, l'Enterprise Edition, je sais plus, EE ou j'en sais rien, je sais juste que l'autre il s'appelle CE, et donc eux ils continuent évidemment leur version professionnelle payante, etc., de GraalVM également. Mais en tout cas, c'est bien de voir que ça va suivre le train des sorties, etc., du JDK.
C'est cool.
Donc c'est cool. C'est... Yes.
Ouais, une fois de plus, on va sur essayer que les deux mondes se rejoignent. Il y a pas mal de news hein, dans ce sujet-là, mais effectivement, les mondes JVM et GraalVM ont tendance à continuer à essayer d'être de plus en plus proches. Et puis, on simplifie comment on passe de l'un à l'autre. C'est quand même, super intéressant.
Yes. Il y a aussi Google qui rejoint Adoptium. Donc, l'idée, la fondation Eclipse. Google rejoint Adoptium et va utiliser la distribution Temurin. Nous, on va peut-être l'appeler Temurin, si tu le dis à la française, pour les JDK, aussi bien ceux qui sont utilisés dans les produits de Google Cloud. Parce que bon, en interne, il y avait toujours eu une version Google, mais qui n'était pas publique, quoi, qu'on utilise dans nos produits, mais sans forcément que ce soit une distribution officielle. C'était notre propre distribution avec des optimisations. Donc là, on va pouvoir aussi contribuer certainement. Enfin, Google, je crois, tu sais, de temps en temps, ils publient. Enfin, j'ai vu ça dans des tweets. Tu sais, les contributeurs à OpenJDK. Et en fait, on voit donc Oracle qui est premier, Red Hat qui est deuxième, et Google est pas très loin. Donc je sais pas s'il y a pas peut-être maintenant Microsoft devant, mais Google a quand même est dans les 3-4 premiers des contributeurs sur OpenJDK. Et là donc Temurin, le JDK, et aussi donc l'idée c'est d'apporter encore plus les différentes petites améliorations, etc. qu'on va proposer. Et je crois, l'article que j'ai mis dans les liens ne le détaille pas, mais donc ça a été annoncé à Google Cloud Next, qui est la grosse conférence de Google Cloud aux États-Unis, et c'était la semaine dernière. Et le product manager parlait également de support, donc c'est-à-dire que on supporterait officiellement ce JDK. Donc j'imagine ça veut dire aussi pour les clients. Donc comme comme Coreto chez Amazon, comme comment ça s'appelle chez Microsoft, voilà. Alors après on est tous basés plus ou moins sur des versions similaires hein, du JDK. Et puis évidemment c'est des JDK qui passent les tests, le TCK, les tests de compatibilité, tout ça. Hein. Mais voilà, donc c'est bien qu'on rentre un petit peu plus. Enfin, quand je dis on, c'est parce que là je parle. Vu que je travaille chez Google, évidemment, même si je ne suis pas le porte-parole officiel en l'occurrence, je trouve que c'est bien qu'on fasse cet effort-là proposer un JDK et qu'on pourra aussi utiliser localement, c'est-à-dire en tant que développeur, si tu es sûr que c'est vraiment le même JDK qui est utilisé quand toi tu développes en local et celui qui est utilisé dans les produits sur lesquels tu déploies, c'est quand même aussi rassurant, même si encore une fois avec les TCK, tout ça... Normalement, il n'y a pas vraiment de différence, hein, mais bon.
C'est ça. C'est un peu plus simple sur Java que dans d'autres langages.
Yes. Petite nouvelle cool. Ensuite, il y avait Brian Guts. Donc, il a écrit un article qui s'appelle Paving the On-Ramp. Je ne sais pas trop comment le traduire en français, mais c'est faciliter le... Ouais, aider à la... comment tu dis ça ? Aider à la... Non, pas à l'adoption, mais la première
à apprendre. La progression, ouais.
Ouais. En fait, quand on... Une des critiques qu'a toujours reçu Java, c'était en particulier pour les débutants. Donc, quand tu veux faire un Hello World en Java, alors, bon, à la limite, le package, tu peux à la limite le sauter, mais package, com.toto.machin.virgule. Alors, ensuite, on va faire public, class, my hello world, ouvrez les accolades, public, static, void, main, string, crochet, args, ou .. Et ensuite, bon, allez, enfin, on va peut-être pouvoir écrire hello world. Alors, non, attends, system.out.println, et enfin, tu passes ta chaîne. Bon, après, tu regardes Groovy, tu fais println la chaîne, c'est bon. Et tu regardes Gérard, oui, alors... Donc, il faut expliquer ce que c'est qu'une classe. Il faut expliquer... Ah oui, il y a la visibilité. C'est public, c'est pas public. Ensuite, statique. Alors, c'est quoi les méthodes statiques par rapport à non statique? Void. Alors oui, ça retourne, ça retourne pas. Si ça retourne pas, c'est void. Enfin, bref. très rapidement, c'est, enfin, c'est vrai que le Hello World en Java, il a toujours été très compliqué. Donc là, ce qui est intéressant dans l'article, alors il n'y a pas de JEP hein, encore pour aller dans cette direction-là, donc je pense que ça a été offert, enfin ça a l'air d'avoir été pas mal réfléchi, mais j'imagine en tout cas qu'ils vont essayer d'adopter ça. Donc de, alors comment ils appellent ça, le launch protocol, c'est-à-dire la manière dont tu lances ton code, tes points d'entrée dans tes classes Java, comment arriver à le simplifier et qu'est-ce que tu peux simplifier. Et en fait, ils montrent tout un tas de petites mesures ou évolutions de Java qui fait qu'au final, vraiment au final, tu pourras écrire void, main, sans rien dedans, accolade, println, hello world. Donc c'est presque comme des langages enfin, type Groovy, etc. Il y a quand même une méthode main qui est même pas statique, parle pas de public, les arguments, si tu les utilises pas, tu n'es même pas obligé d'en parler, donc il va vraiment juste regarder une méthode main. println, c'est vrai que ça peut être, tu sais, comme quand tu fais un import statique de system.out, ben effectivement, tu peux écrire println, à la limite, ça aurait été un genre de truc qui aurait dû être fait presque depuis le départ. Et le point d'entrée, si donc tu auras un nom de classe, je sais plus si le nom de classe, je crois qu'il doit être dérivé du nom du fichier Java, je sais plus, je l'ai lu, mais je sais plus. Les arguments, donc j'ai dit si tu les utilises pas, par défaut, quand tu as une structure de sans la classe, si tu veux, même s'il y a quand même toujours une vraie classe qui est proposée, enfin qui est créée derrière, du coup, t'es pas obligé de faire une méthode statique. Et voilà, après, ça va être que quand tu vas rajouter des... Non, bah même, d'ailleurs, quand tu rajoutes des méthodes... pourra le faire même sans qu'elle soit statique. Donc faut voir. En tout cas, c'est tout un tas de petits changements et évolutions qui fait que pour ta première classe, pour faire un petit script, bah en fait, ça va être plus simple, plus léger. Et après, ça ne change pas ce que tu vas écrire dans tes classes, on va dire normales. Ça restera des classes normales avec tous les mots clés qui vont bien. Mais tu vas les introduire petit à petit, ou en tout cas tu vas ça va pas changer fondamentalement ce que les développeurs Java expérimentés font au quotidien, pas du tout.
C'est ça.
C'est vraiment juste pour faciliter l'apprentissage quand t'es étudiant et les profs quand ils t'enseignent Java, bah attends, on va commencer par ça. Et en fait, ça va être plus simple. Donc voilà, ça a l'air plutôt cool. Alors j'ai vu, il y avait aussi, alors j'ai pas mis le lien pour ça, il y avait comment il s'appelle, Stéphane Colbourne, là, qui proposait d'autres choses. Stéphane qui est toujours un peu jamais trop d'accord avec Brian, à chaque fois, toujours proposer des trucs alternatifs, et qui avait l'air moins bien, finalement.
Ouais.
Donc, voilà, je trouve que ça va dans le bon sens, mmh. Et alors, honnêtement, hein, depuis quelques temps, plus j'y pense, plus je me dis... Enfin, je savais que Brian Gutt était brillant, il n'y a aucun doute là-dessus, même si peut être un peu pédant et prétentieux des fois, mais bref, ça n'engage que moi et l'expérience personnelle que j'ai avec Brian. Néanmoins, je trouve que, enfin lui, il n'est pas tout seul non plus à travailler là-dessus, mais ils arrivent, je trouve, à faire des choses très cohérente, consistante, donc cohérente, avec l'évolution du langage, qui fait qu'on ne renie pas non plus ce qu'on a pu faire avant. On introduit encore, hein, c'est le seul langage qui a pas introduit d'énormes breaking change, des changements cassants, comme par exemple Microsoft sur C# l'a déjà fait, hein, mais là, tu vois, la manière dont évolue le langage. Moi, je pense en particulier là au pattern matching, comment ils arrivent à l'introduire et petit à petit à l'étendre à plein d'endroits différents. Je trouve que c'est fait de manière très élégante, très cohérente et chapeau bas quoi. Nous, par exemple, enfin, je sais pas sur Groovy, on avait une approche assez différente finalement. Et en fait, alors que voilà, qu'une autre approche, on reste toujours compatible au maximum avec la syntaxe de Java. Mais c'est vrai qu'on avançait de feature en feature un petit peu en pas à pas, si tu veux. Alors que là, on voit qu'il y a peut-être une réflexion. Alors, c'est vrai qu'ils sont nombreux et ils travaillent dessus depuis longtemps. Et bref, ils peuvent prendre le temps de la réflexion. Mais ça reste très cohérent et avec une vision long terme de l'impact que ça peut avoir après sur d'autres choses qu'ils peuvent vouloir introduire. Donc voilà, j'aime bien cette idée-là, même si moi, en tant que développeur Java, cette paving the on-ramp là, ça va pas changer grand chose avec moi parce que je suis pas forcément en bénéfice, mais pour les nouveaux,
tu codes les classes à la volée dans FI, ouais. Et puis je suis d'accord avec toi, hein, je trouve ça assez intéressant, comme on peut voir aujourd'hui qu'il y a une sorte de c'est un gros puzzle Java. Ils ont réussi à le découper avec plein de petits projets plus ou moins gros, etc. Et au fur et à mesure, on voit le puzzle qui apparaît, on voit les choses qui se mettent ensemble. Ah oui, mais parce qu'ils ont fait ça là, ils peuvent faire ça là et tout. Donc effectivement, je suis comme toi, je reste impressionné sur parce que c'est vrai qu'on a vécu des années où c'était un peu compliqué, tout était effacé derrière certains gros projets qu'on ne citera pas et qui rendaient tout ça mais vraiment opaque, on comprenait pas pourquoi les trucs avançaient pas ni rien. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir cet avancement version après version où voilà les petits morceaux qui se rajoutent et qui s'accompagnent et qui vont ensemble. C'est vachement intéressant de voir l'évolution du langage qui, une fois de plus, hein, à 20 ans, enfin plus de 20 ans, on est quand même...
Clairement, faire des évolutions, c'est compliqué. Hein. Moi, mon expérience sur Groovy, c'était qu'à chaque fois qu'on rajoutait des nouvelles choses, moi, j'appelle ça c'est un peu l'explosion combinatoire. Tu rajoutes une fonctionnalité, ouais, ok, c'est juste, entre guillemets, une fonctionnalité de plus, mais ça veut dire comment celle-ci va interagir avec toutes les autres fonctionnalités que tu avais déjà rajoutées avant. Et ben en fait, tu t'aperçois que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, et t'as beau essayer de réfléchir à l'avance autant que possible, il y aura toujours un moment, ah ouais, merde, ce cas-là, quand tu combines tel et tel et tel truc avec cette nouvelle feature, ah, c'est peut-être pas, alors comment... Donc eux, tu vois qu'ils réfléchissent quand même, tu sais, un peu comme les joueurs d'échecs, plein de coups à l'avance.
C'est ça, il y a plein de coups à l'avance et tout, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit, et d'ailleurs il n'hésite pas à le dire, enfin Brian est le premier à dire des fois, non ça y aura jamais, ça c'est non, enfin il y a effectivement cette vision très, la vision elle est là, et il y a des trucs, non ça c'est pas possible, mais après effectivement si tu creuses, oui il va te sortir effectivement les quatre coups d'avance pour dire ouais mais non parce que si on fait ça derrière boum 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 et alors que nous on peut pas avoir cette vision effectivement sur mais donc c'est ça, je trouve ça super intéressant, enfin, et c'est là où effectivement je te rejoins, Brian est quelqu'un de très intéressant, bon faut effectivement le connaître et tout, c'est un peu sa partie de personnalité on va dire, par contre c'est vrai qu'on apprend beaucoup de ces gens là je trouve que c'est super. Alors, on va passer aux librairies. Alors, on n'a pas tout noté sur les librairies. Il y a des mises à jour obligatoirement chez tout le monde. Celle que j'ai noté, que je voulais juste souligner aujourd'hui, c'est la RC1 de Spring Boot 3.0. Donc, on avait déjà parlé de Spring Boot 3.0, qui va changer beaucoup de choses sur la partie les supports de Spring Core, la version Java supportée, etc. Java 16, etc. Ou non, 17, c'est quoi la LTS?
Plutôt 17.
La LTS. Donc tout ça, et là ce qu'ils ont annoncé, donc il y a beaucoup de, je l'ai pas retrouvé, j'avais un autre article de Stéphane Nicole je crois, sur justement ils sont aussi de travailler énormément sur la partie intégration GraalVM. Jusqu'à présent c'était un projet un peu à côté, le Spring Native, etc. C'était comme ça dans, tout du moins dans le Spring Boot 2, qu'ils avaient commencé à prototyper pour simplifier la génération native via GraalVM de vos applications Spring Boot d'une manière générale. Et donc là dans la RC1, ça y est, ils arrivent à complètement unifier tout ça et rendre transparent finalement le fait que vous génériez du Java classique ou du GraalVM avec les mêmes plugins, Maven ou Gradle, et sans configuration excessive, vous pouvez générer vos versions natives directement. Ouais. Voilà, donc ils avancent beaucoup dans cette chose-là. Ils sont en RC1, donc ça va atterrir là dans les mois à venir. Qu'on peut imaginer, généralement je crois que c'est en novembre, quelque chose comme ça, qu'ils font les releases, donc je sais pas si là ça va être...
Et il y a un beau travail aussi œcuménique, on va dire, par exemple là les plugins justement que tu mentionnais, Maven, ouais. Gradle, ils avaient été démarrés en tout cas par l'équipe Micronaut, hein, surtout. Et du coup, ils ont partagé ces plugins-là, ouais, avec l'équipe Spring. Oui. Quarkus, je sais plus s'ils utilisent cela aussi ou pas. Mais en tout cas, il y a des... Donc, en tout cas, les trois, par exemple, contribuent aussi à la nouvelle... comment ça s'appelle le système de métadonnées pour GraalVM, qui partage des informations de... Enfin, voilà, des métadonnées de ce que GraalVM a normalement besoin pour savoir qu'est-ce que telle ou telle librairie fait en termes de réflexion, de choses qu'elle accède, etc. Et ce qui fait que, au lieu d'avoir à soi-même configuré GraalVM Native Image, en fait, on a déjà les métadonnées pré-remplies finalement venant des librairies dont on dépend. Donc, on gagne beaucoup en termes de temps de configuration de GraalVM pour pouvoir builder avec Native Image, quoi.
Ouais. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en place, mm-hmm, à côté. Donc Spring, c'est en train d'atterrir. Et puis voilà. Donc après,
Oui, il y avait d'autres versions. Là, il y avait différentes versions de Micronaut 3.7. Alors c'était des petites choses, hein, c'est pas non plus des gros trucs. Et je sais plus quelle est la version de Quarkus.
Ouais, ça doit être 2.13, je crois, qui est sorti en octobre. Ils en sont à 2.13.3.4. Mais c'est, ouais, voilà. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est plus mineur en termes de mise à jour. C'est pour ça que je voulais juste les mentionner eux, parce qu'effectivement.
C'est une prochaine version majeure, hein, en tout cas.
Majeure. Donc voilà. Donc, ouais, donc on espère qu'ils viendront nous présenter tout ça à DevOps France. Vous m'avez entendu, les copains. J'attends, yes, vos propositions.
On passe. Je vais te laisser peut-être faire l'infrastructure. Je vais me faire un café pendant ce temps-là.
Bah, ok. Va faire ton petit café sur la partie infrastructure. Je comprends pas pourquoi. Donc, plusieurs articles.
Espèce de marionnette, va.
Espèce de marionnette, c'est ça. Bah, donc, on va parler un peu de Puppet. Alors, qui se souvient de Puppet? Oh là, pas grand monde dans la salle.
Peut-être Tataillé.
Ouais, c'est
pour ceux qui se rappellent de Tataillé.
Mon Dieu. Donc effectivement, Puppet, c'est vieux, mais ça n'empêche pas que on en a un peu toujours besoin, ça existe toujours un peu dans certaines entreprises, et puis bien surtout, il peut y avoir des projets de migration de Puppet vers autre chose, généralement ça sera peut-être plus de l'Ansible ou ce genre de technologie, et donc je vous ai listé deux blogs, enfin une personne, Stéphane Robert, qui a blogué parce qu'il découvre aussi Puppet, donc, mais effectivement découvrir en 2022-23 Puppet, c'est pas ce que c'était il y a 10 ans. Moi j'en ai fait effectivement il y a 10 ans, ouais, je pense.
Mais à l'époque, c'est Puppet versus Chef, quoi,
c'est ça, exactement,
c'est ça, les trucs à la mode
à l'époque, c'était ça. Et donc bon, voilà, il y avait aujourd'hui, bon, ça c'est passé un petit peu, remplacé par tout ce qu'on connaît côté infra. Donc il a fait deux articles sur justement l'introduction à Puppet, comment les basiques, les différents concepts qu'il y a dedans, les manifestes, les classes, les modules, comment le lancer en local, faire ses tests en local, utiliser Vagrant pour faire tout ça, voilà. Donc il a repris tout ça, je trouvais ça très intéressant, c'est écrit en français, voilà, c'est pour ça que je voulais le lister dans nos show notes, c'est intéressant. Et puis son blog a l'air d'être intéressant, il y a pas mal de petits sujets à droite à gauche qui sont cool. Voilà. Dans les autres sujets, donc un peu plus modernes, on va dire, Docker Compose est sorti en version 2.11. Bon, vous allez me dire, ouais, une version mineure de plus, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que dans Docker Compose, vous pouvez builder en live l'image, ou enfin une des images de votre compose. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des images existantes, mais vous pouvez aussi en builder. Et ils ont rajouté le support des multi-architectures, donc support qui reste important aujourd'hui, parce que avec les M1 qu'on certains peuvent avoir et tout ça, cette problématique d'avoir la gestion des différentes architectures devient critique, puis en termes de perf, etc. Donc ça y est, c'est supporté par Docker Compose, vous pouvez builder enfin les images selon les architectures cibles dont vous avez besoin. Pour rester dans Docker, je vais aller directement à Docker Desktop 4.13 qui vient de sortir. Je sais plus si c'est pas aujourd'hui ou hier. C'est très récent. Une chose intéressante dans le Docker Desktop, c'est qu'ils ont rajouté. Ils avaient rajouté. C'était déjà il y a il y a un petit bout de temps, il y a six mois, les notions d'environnement de développement. Donc justement, de pouvoir définir son environnement de développement avec tous ces containers et de pouvoir automatiquement les partager dans les équipes et les démarrer, etc. Et ils viennent de rajouter dans leur CLI, enfin en extension de la CLI Docker, bah justement la possibilité de manipuler ces environnements. Donc maintenant, vous pouvez utiliser Docker Dev, quelque chose pour lister vos environnements et donc scripter potentiellement l'accès à vos environnements. Ça peut toujours être pratique si vous utilisez cette technologie pour gérer votre environnement de dev. Vous pouvez maintenant plus facilement scripter récupération, démarrage, etc. de l'environnement de dev pour vos équipes. Voilà. Et un dernier sujet, VirtualBox vient de sortir enfin en version 7.0 et on l'attendait parce qu'effectivement elle apporte le premier client Mac ARM, donc on peut enfin mettre du Mac ARM dedans. Et puis tout un tas de nouvelles choses sur le chiffrement des VM, non pas des MV comme j'ai écrit, des VM, nouvelle accélération Direct3D, etc. Et voilà, donc pas mal d'améliorations sur VirtualBox qui passe enfin en version 7.0. Voilà pour l'infrastructure, et j'en passe, c'est des meilleurs, parce que bien sûr, tout évolue, hein, les Kubernetes, etc. Mais...
Yes. Après, on va passer au web, enfin plutôt web, enfin ouais, on va dire que c'est du web. Il y a Wasm Time, donc qui est un runtime Wasm qui vient... Alors c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on couvre beaucoup chez nous, vu qu'on est plus des javaïstes à la base quand même, mais bon, Wasm Time, donc qui a atteint la version 1.0, donc c'est un de ces runtime WebAssembly, donc il y en a quelques-uns qui sont connus. Donc il y a un article, alors c'est un article qui a déjà un mois, hein, donc du coup je me rappelle même plus ce qu'il raconte dedans, mais qui revient un petit peu sur l'histoire de ce runtime-là. Donc c'est un runtime Wasm qui est utilisé hein, par des boîtes assez connues, genre Shopify, Fastly, etc. Ou même Microsoft, d'ailleurs. Et aussi utilisé... donc au-dessus de ces runtime-là, il y a aussi des nouveaux acteurs, par exemple Fermion, qui a créé des couches un petit peu plus haut niveau, qui permettent donc d'écrire des applications, un peu des espèces de serveurs d'applications, on va dire, au-dessus de ces runtime Wasm. Donc par exemple, ça s'appelle Spin, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas un serveur d'app, mais leur infrastructure au-dessus de Wasm Time. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça parle, un petit peu des cas d'utilisation de ces runtime WebAssembly, avec en particulier une mention sur tout ce qui est microservices et serverless. Donc la manière dont ils utilisent ça dans le contexte microservices, ou que ce soit aussi pour des use cases de plugins, c'est-à-dire que du coup pour des systèmes qu'on veut extensibles. Attends, qui c'était d'ailleurs qui a refait, parce que là je crois que c'est pas mentionné dans cet article là, c'est Figma je crois, pour la version web là de Figma,
oui, je crois
si je dis pas de bêtises,
oui.
Qui utilise WebAssembly et du coup pour avoir un truc qui booste et qui a de la patate. Et c'est vrai que des choses, des outils comme ça peuvent être. Alors ou non, je vais prendre peut-être un meilleur exemple. C'est par exemple genre les proxys comme Envoy proxy là. On peut aussi l'étendre avec du Wasm et donc que ce soit pas juste. Parce que je sais pas. Par exemple, il y a des dans le monde Java justement. Ben il y avait des gens qui utilisaient Groovy pour étendre une application Java parce que c'est facile à intégrer. Dans les jeux vidéo, il y avait beaucoup d'utilisation de Lua pour étendre un jeu, créer des modes, etc. Et là, du coup, on voit que Wasm prend un petit peu cette WebAssembly prend cette, enfin, offre en tout cas cette facilité-là de pouvoir étendre des systèmes existants et de s'interfacer avec plein de langages et plateformes différentes. Donc on peut appeler du Wasm à partir du Java, hein, par exemple, hein, si on veut, avec, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, le projet qui permet de faire ça. Et qui dit WebAssembly aussi, c'est aussi une sorte de format pivot. Alors c'est pas du bytecode comme Java, hein, c'est différent, c'est autre chose. Mais il y a plein de langages qui transpilent, qui se compilent en WebAssembly. Donc que ce soit Go, donc JavaScript hein, à la base... bien sûr, mais que ce soit Go, que ce soit Rust, donc du coup, imaginons on veut étendre Envoy avec sa propre logique, etc. Ben on va pouvoir écrire un plugin pour configurer Envoy pour faire ce qu'on veut avec du Wasm, et peut-être qu'on va l'écrire en Rust, mais en le compilant en Wasm. Donc il parle de ça dans l'article des environnements. Il parle aussi un petit peu des il mentionne plusieurs fois WASI, qui est, parce que normalement l'idée de WebAssembly dans le navigateur, c'est vraiment d'être un environnement, une sandbox, un bac à sable sécurisé et qui a finalement accès à rien. Et si on veut qu'il accède à quelque chose, faut explicitement dire, ben voilà, tu peux accéder à telle ou telle chose, telle API, etc. Mais par exemple, WebAssembly ne couvrait pas forcément genre l'accès au système, quoi, aux fichiers, etc. Et donc il y a une autre spec ou standard, je sais pas comment on appelle ça, WASI, qui permet aussi d'accéder à ces choses-là. Et tous les runtimes ne supporte pas ou pas complètement éventuellement WASI, et je crois que Wasm Time, alors j'ai peur de dire une bêtise, faudrait que je vérifie avant d'avancer ça, mais c'est un de ceux qui a un support complet, je crois, de WASI. Et quoi d'autre, ouais, voilà, bon, c'est à peu près ça. Et puis certainement il parlait aussi un petit peu de performance, donc c'est un de ceux qui est un runtime très très performant, et avec des ouais, je vois quelques chiffres là, 5%, 22% plus rapide sur tel ou tel truc, sur certains benchmarks là, SpiderMonkey, Wasm, et j'en passe. Donc il y a un article assez long qui parle de tout ça, hein, et si en tout cas vous êtes intéressé par WebAssembly et les runtime WebAssembly, et ben voilà, il y a cette nouvelle version 1.0 qui est enfin sortie.
Super. On continue, donc effectivement je l'ai mis dans la partie web. Après ça s'applique à tout ce qui a une UI, ça pourrait être mais voilà, c'est un article que j'ai vu qui parle de comment mieux écrire ces messages d'erreur, mais messages d'erreur au sens donc justement UI, UX, une error box, quand vous avez l'application en face de vous qui fait pas ce que vous attendez à ce qu'elle devrait faire, comment le remonter. Et donc l'auteur explique qu'est-ce que c'est que déjà un mauvais message d'erreur, donc le ton qui est pas approprié, qui peut être un peu dur, un peu rude, des jargons techniques, quand vous êtes un utilisateur d'une application classique.
Erreur 500,
comme j'ai vu encore passer hier sur une grande société de chemin de fer français. Voilà, c'est une chose où effectivement c'est un peu bizarroïde de mettre ça devant les utilisateurs finaux. Rejeter le blâme, donc et dire que c'est un peu de la faute de l'utilisateur, bon, t'es con. Mais non, on t'a pas dit de faire ça. C'est peut-être que t'as UX.
Tu peux t'en plaindre qu'à toi-même.
C'est ça. Ou juste des erreurs génériques sans raison. Voilà,
L'erreur est survenue.
C'est ça, okay. Merci.
Ok.
Merci. Et donc, elle explique, elle donne des exemples de bons messages d'erreur, dire justement ce qui s'est passé et pourquoi, rassurer la personne, notamment lui dire si elle a perdu des données ou pas dans son workflow. Enfin, c'est toujours la même chose, c'est souvent on voit une erreur, je fais quoi, je fais un refresh sur l'écran, sur le navigateur ou pas, donc savoir justement quels sont les impacts, faire preuve d'empathie obligatoirement, donc effectivement
c'est pas ta faute, t'inquiète pas,
c'est certainement plus nous que toi. Aider à régler le problème, donc effectivement si possible expliquer comment faire autrement l'opération, ce qu'il faut pour que
plus explicite, quoi, les infos qui manquent,
pour éviter que justement on aggrave la situation en faisant quelque chose de encore pire, et puis donner toujours une sortie de secours. Donc c'est ça va être par exemple dire contactez notre support ou faites quelque chose, une action qui au final laissera pas l'utilisateur bloqué sur son écran d'erreur là, à dire c'est pas possible, voilà.
Puis même, tu vois, quand tu dis contacter le support, si tu mets pas même, par exemple, un lien vers la page de support, bah, t'es là, ah ouais, mais je sais même pas comment je peux le contacter, le support.
Voilà, c'est ça. Ou alors, là, c'est là que tu vas cliquer sur le site web, et ben, tu vas sortir de ton flanc court, donc tu peux.
Ouais.
C'est ça. Donc, faut que ça soit prévu, tu vois, c'est le truc, effectivement. Ouais. Donc, faut que le workflow d'erreur, de gestion de l'erreur, c'est vraiment quelque chose qui est critique dans les applications, gérer correctement ces retours d'erreur, ces feedbacks, le comment faire et tout, c'est important. Et là, dans l'exemple qu'elle montre, un écran d'erreur, voilà, qu'elle considère bien conçu, où voilà, le titre c'est impossible de se connecter au compte. Vos informations ont été sauvées, donc tu sais que en tout cas, t'es pas complètement perdu dans, enfin, ce que t'étais en train de faire, tu les as pas perdu. Mais on peut pas vous connecter donc à cause d'une issue technique dans notre de notre fait. Tu peux recommencer donc please try connect again, donc réessaye encore. Et si ça continue, bah contactez, et là tu as un lien qui effectivement en plus techniquement pourrait donner plus d'informations vers le support, voilà, de manière à ce que ce voilà, donc juste des petites choses comme ça mais qui sont bah qui nous parlent beaucoup, je pense à nous utilisateurs quotidiens d'applications qui
c'est sûr.
Des fois sur des trucs, mais oh, pourquoi ça a planté, mais qui, c'est vrai que c'est juste critique pour des applications qui sont encore plus valables pour les end users
utilisées par mamie et autres, quoi.
C'est ça.
Pas que donc voilà, des donc,
on passe à l'outillage.
L'outillage, ouais. Alors moi je suis un grand fan de Amélie Benoît, qui a partagé, et un fan en particulier de ses superbes sketchnotes. Et Amélie donc a partagé un article d'initiation au sketchnotes. Donc elle explique en fait de A à Z, bah c'est quoi finalement les sketchnotes. Bon bah c'est un dessin, c'est une représentation visuelle d'une prise de notes, mais où on mêle en fait du dessin évidemment et du texte, de manière graphique et spatiale, je dirais, de représenter les choses au lieu du texte purement linéaire ou juste avec des bullet points indentés, quoi, au mieux. Donc après on se dit ouais mais attends, je sais pas dessiner, comment tu veux que je fasse des beaux sketchnotes, mais c'est pas grave en fait, je veux dire, si tu veux dessiner une personne, tu fais un rond pour la tête, tu sais, tu fais un smiley, quoi, t'es pas obligé. Donc du moment que tu sais dessiner des carrés, des cercles, des triangles, et ben dis t'as pas besoin d'être un artiste et tu peux faire des sketchnotes qui sont lisibles, compréhensibles, et ça n'empêche pas qu'ils peuvent être beaux quand même si c'est des petits bonhommes bâton, quoi, c'est pas grave. Du coup, à quoi ça sert, les sketchnotes? Alors, ce qui est pas mal, c'est en général, hein, quand on prend des notes ou même quand, je veux dire, on était étudiant et qu'on faisait, tu sais, des fiches, des choses comme ça, ou des mind maps, c'est un peu aussi l'idée, hein, finalement, d'une manière ou d'une autre pour les sketchnotes. Mmh. C'est une manière de s'approprier de l'information. Si on arrive à la synthétiser de cette manière-là, en fait, ça nous aide aussi à l'appréhender et à l'apprendre, pour mieux la mémoriser aussi et mieux retenir ce qu'on a pu voir. Et c'est aussi une super manière de partager avec les autres. C'est-à-dire, moi, j'ai appris ça, je l'ai synthétisé de cette manière-là. Et cette approche très visuelle et comment je voulais dire, tu sais, organisée un petit peu par thème, tu vois, comme dans les mind maps où t'as des branches, tu vois. Et ben en fait, avec des chemins, tu peux faire des choses assez chouettes, et ça permet de vraiment mettre en avant la structure des choses. Tu vois, tu lis un livre, c'est très linéaire. Bon, si c'est découpé en chapitres, mais c'est tout. Alors qu'en fait, il va y avoir des arcs différents, des personnages différents qui s'imbriquent et tout. Enfin, bon, l'exemple d'un livre, c'est peut-être pas le meilleur exemple. C'est quand tu présentes, tu fais une synthèse d'une présentation que t'as vue à Devox France. En tout cas, ça va te permettre de faire ressortir les différents aspects importants, les différentes, je sais pas, par exemple, les différentes features d'un produit que tu as vu, les bonnes pratiques, tu vas pouvoir les lister, tu vas pouvoir séparer un petit peu en concepts différents. Et après, dis aussi, en fait, des sketchnotes, tu peux en faire pour tout et n'importe quoi, hein. Donc là, je prenais l'exemple d'un livre que tu résumes, ou d'un article. Ça peut être une présentation, ça peut être un sujet technique, une formation que tu as suivie, tu vas peut-être pouvoir la synthétiser comme ça. Et après, tout ça, elle redonne un petit peu les bases, on va dire, graphiques. Donc, qu'est-ce qu'il y a, quel genre d'éléments on va pouvoir utiliser pour créer ces sketchnotes, que ce soit des petits pictogrammes, des textes. Alors, les textes, Elle parle aussi, par exemple, pour faire les titres, on peut faire des beaux titres avec des belles, tu vois, des belles majuscules, où on peut jouer, tu sais, un peu comme quand tu choisis une police de caractère, finalement, hein, dans un document. C'est comment mettre en valeur et faire ressortir certains aspects. Donc, ça peut être, c'est pas vraiment une police de caractère, quoi, que tu utilises, mais ça reste faire des styles un petit peu différents avec écriture avec des majuscules, des minuscules, penchées ou pas. Comment tu peux aussi le souligner avec un petit peu de couleur, avec ou en faisant un petit peu de gras, tu vois, comme on le ferait avec le gras sur son traitement de texte. Ça peut être des puces, des flèches, des containers aussi. Souvent, on voit des belles, genre des banderoles pour les titres, des choses comme ça. Et en fait, elle explique que, en fait, c'est pas si compliqué que ça à faire des trucs jolis. Donc, ok, si t'es pas à l'aise, tu fais juste des petites boîtes autour, c'est pas grave. Mais après, au fur et à mesure, en fait, à mon avis, plus tu en fais, petit à petit, plus tu vas pouvoir ajouter des petites choses qui vont faire ressortir les choses, en tout cas. Et puis, c'est pareil, les sketch notes, donc, soit on les fait en live, mais évidemment, ça peut être, par exemple, les beaux sketch notes qu'elle publie sur Twitter, en particulier. Je pense qu'elle fait une première version effectivement en live quand elle voit la chose, mais après pour la partager, je pense qu'elle doit retoucher, mieux réécrire, etc. Parce que t'as plus de temps. C'est pas forcément obligé de le faire, mais si peut-être après tu veux partager.
Elle le dit effectivement qu'elle peut dans certains cas reprendre de zéro, apprendre si ça va trop vite, elle prend des notes et tout. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est aussi le de visualiser l'ensemble. Donc des fois tu peux le faire en fonction du contexte, des fois tu peux le faire dès le début si tu as un plan d'une session, d'un machin, tu vas savoir peut-être un peu comment tu vas organiser ton espace, tes sujets et tout. C'est vrai que des fois tu découvres au fur et à mesure, donc c'est difficile de se placer, enfin d'agencer les idées dès le départ. Donc c'est super instructif. Et effectivement, la toolbox est pas très compliquée. Enfin, elle met en avant que quelques items. Il y a pas besoin d'en dessiner 50. Elle le fait très bien, mais voilà. Et c'est vrai que l'écriture, et même moi je m'en rends compte, mais j'écris très très mal pour ceux qui me connaissent, et c'est vrai que par contre quand j'essaye de faire un peu de la graphie comme ça, là je peux faire des choses plus propres, et bien sûr ça prend plus de temps, donc c'est effectivement cette gestion du temps, mais par rapport au résultat, quand c'est quelque chose qu'on veut pouvoir réutiliser, qu'on veut pouvoir garder et mettre au coin de son bureau parce qu'on sait que c'est quelque chose qui a besoin d'être réutilisé, ça vaut le coup de faire cet effort. Ouais, faire un deuxième pas, faire un truc propre qu'on peut partager, qu'on peut réutiliser soi-même en fonction du besoin. Donc moi je trouve ça, enfin moi je suis fan comme toi, je trouve ça génial. Enfin le résultat de ce qu'elle fait et les autres arrivent à faire sur ce sujet, moi je suis admiratif parce qu'effectivement je dessine comme un pied et j'ose même.
Mais tu peux le faire, tu sais faire des carrés, des ronds, des triangles et des flèches, c'est bon, tu peux le faire, rassure-toi.
Je pourrais le faire.
Et puis elle finit l'article aussi avec quelques ressources utiles, des liens, et en particulier donc vers les livres de Mike Rod, qui est un petit peu l'inventeur du concept. Là j'ai je crois que c'est deux bouquins. J'ai le premier bouquin là qu'il avait sorti, qui était vraiment très chouette. J'aime bien aussi le papier un peu pas carton, mais qui est un petit peu rigide, qui est assez sympa. Il n'y a pas 40 000 couleurs, tu vois, t'as que quelques couleurs dans son truc, beaucoup de noir et blanc, un peu de rouge, et je crois que c'est tout d'ailleurs, ou un peu d'orange, je sais plus. Donc c'est un livre qui est assez agréable et tactile à utiliser, c'est très très sympa. Et c'est grâce à elle, hein, d'ailleurs, que j'avais découvert le sketchnoting, et c'est elle qui avait... Enfin, elle, et puis aussi, quand elle avait fait les sketchnotes avec Anne, également. Et on s'en rappelle, nous, particulièrement, Cascodeur, car Amélie et Anne avaient fait le sketchnoting live pour les Cascodeurs lors d'un Devox France, il y a pas mal d'années déjà, 5 ans, j'en sais rien, enfin, c'était avant la pandémie, je sais plus trop. Et donc voilà, allez lire un article très très clair, des exemples et tout, si ça vous intéresse, le sketchnote, c'est l'article à lire.
Voilà. Ouais, ça. Et donc ça c'est un outil comme les autres, mais effectivement très orienté prise de notes et tout ça. Donc après, pour revenir sur du dev et du plus classique des cascodeurs, je vous en ai mis deux sur Maven. Je vais pas vous parler de Gradle non plus, faut pas exagérer. Si, petite anecdote quand même sur Gradle, puisque chez Spring, start.spring.io, ils viennent de faire le changement pour mettre Gradle par défaut au lieu de Maven.
Ouais.
mais bon, pour l'instant voilà, c'est voilà, les choses évoluent, c'est bien pour eux, c'est très bien. Donc ouais, sur Maven, bah Maven Central que tout le monde connaît, que de toute façon on utilise même si on fait du Gradle et autres, il y a une nouvelle interface pour la recherche. Alors ça dépend comment vous travaillez, si vous avez besoin de faire des recherches tous les jours ou pas, ça m'étonnerait. Mais c'est toujours plus pratique et mieux fichu que l'ancienne. Donc vous allez sur central.sonatype.dev et vous avez la nouvelle UI de recherche.
Et un truc marrant d'ailleurs, j'avais fait, tu sais, je voulais chercher genre Groovy. Mais Groovy, donc en fait, il va te proposer des recherches, alors plus pertinentes par rapport aux mots clés. Et par exemple Groovy, donc là les coordonnées de Groovy, c'est maintenant c'est org.apache.groovy. Avant c'était org.codehouse.groovy, mais dans les toutes premières versions RC du tout début, à un moment on l'avait appelé Groovy le truc. Et en fait, il va me donner des vieux résultats de Groovy. Et je me dis, l'algorithme, parce qu'il me met les trucs qui ont été sortis il y a presque 20 ans, hein, Groovy. Maintenant, c'était en 2003, hein, donc il y a 19 ans. Et je me dis, ah, peut-être qu'il faudrait améliorer un petit peu l'algorithme de recherche quand même, parce que les résultats... alors bon, c'est une nouvelle interface, c'est perfectible, hein, bien sûr. Mais sur le coup, je me suis dit, ah ouais, mais attends, pourquoi il me donne ça, des vieux trucs, et je vois même pas le mien. Ouais. Donc tu vois, peut-être... rajouter un petit truc pour que les trucs plus récents ou plus utilisés apparaissent plus en haut des résultats que les trucs... Alors, ok, c'est plus pertinent sur la recherche du mot-clé, je te l'accorde, mais en l'occurrence, c'était vraiment pas le truc à...
Non, non, c'est un retour intéressant, donc il faudra le remonter à son tête, effectivement, ouais. Là-dessus, je peux te donner le contact. Mais ouais, non, c'est intéressant. C'est pas étonnant. D'un autre côté, effectivement, je pense que la recherche reste assez basique. Derrière, c'est des bons points. Et l'autre sujet, quelque chose qui peut être utile, le Maven Test Profiler, c'est une extension pour avoir un retour sur les temps d'exécution. Alors bah, bien sûr, si vous avez des outils, là, je sais pas, enfin même votre CI doit vous dire le temps d'exécution de vos tests, indépendamment les uns et les autres, etc. Mais des fois en local, vous voulez un peu essayer de comprendre pourquoi votre build est lent, pourquoi les tests sont lents, etc. Lesquels sont les plus lents. Donc là, il y a le Maven extension, le Maven Test Profiler, vous permet d'avoir cette information et de savoir, bah, voilà, dans votre projet, quels sont les tests les plus lents, etc., etc. Voilà, une petite extension simple à utiliser.
D'accord. Architecture. On en parle de l'architecture. Netflix, hein, qui construit un nouveau système de queue, basse latence et haut volume à partir de composants open source. Alors, je crois que c'est, moi, je vais quand même faire de la délation parce que je crois que c'est Emmanuel qui avait mis l'article et il nous a pas mis les notes et on maîtrise pas trop ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est un nouveau, donc une nouvelle solution, mais qui est basée effectivement sur des composants open source, dont Redis, Kafka et Elasticsearch, et Flink aussi. Ouais. Donc c'est un article qui est sur InfoQ. Alors après, avantages, inconvénients, je serais bien incapable de vous les citer. Mais nous vous invitons fortement à regarder évidemment cet article qui a l'air très intéressant pour ceux qui s'intéressent. Donc au système de que donc l'article parle quand même de voilà de high throughput donc haut débit bande passante etc et les queues avec priorité aussi. Donc c'est vrai que pour l'exclusivité ouais donc pour les gros systèmes des fois il va y avoir des choses qui vont être évidemment plus importantes qui doivent être traitées plus tôt, donc avoir des priority queues, ça doit être important. Voilà. T'as autre chose à dire dessus?
Non, sur celui-là, c'est tout. C'est effectivement, vu que c'est pas mon domaine de spécialité, j'aurais plus de mal à rentrer dans les détails dessus.
Mais en tout cas, ils avaient l'air d'avoir construit ce truc-là pour leurs besoins d'encoding média. Donc j'imagine que, tu sais, par exemple, il doit y avoir, vaut mieux en priorité convertir tel média dans tel format, telle dimension, résolution, plutôt que les trucs moins utilisés. Enfin, ça doit être un petit peu ce genre de choses-là, pour que ce soit plus efficace pour leur système de broadcast vidéo, de livraison vidéo. Ouais. Voilà.
Ok. Passons aux méthodologies. On reparle encore de Google.
Oh. Ah ouais.
Mais alors, Guillaume, dis-moi comment, en tant que manager, vous gérez les gens chez Google? Quels sont...
Eh ben, écoute, je suis pas manager, donc ça tombe bien, donc je ne dirai rien. Donc, sur, voilà, apparemment, bon, je l'avais même pas vu passer, je n'étais pas au courant, mais donc il y a tout un tas de guides. Alors, ils sont pas forcément super longs, donc il y a une bonne vingtaine de guides qui couvrent le sujet du management dans différents domaines. Donc, par exemple, que ce soit l'apprentissage, la gestion des équipes, comment définir des objectifs. Aussi, il y a une section, ou un tag, je sais pas si on peut appeler ça, un libellé, par exemple, sur le, comment on va traduire ça, unbiasing, pour être du coup moins, influencé par ses biais, moins biaisé par des biais qu'on peut avoir sur différents sujets, hein, que ce soit des biais sur les personnes ou même des biais, ça peut être aussi des choses liées au racisme ou des choses comme ça. Alors, je ne sais pas s'ils couvrent vraiment ce sujet-là, mais donc il y a pas mal de choses. Comment revoir, comment étudier les résumés que tu reçois, comment identifier qu'est-ce qui fait un bon manager, comment embaucher avec des comités, tu vois, et pas juste à la tête du client. Donc, pour essayer d'être un peu plus fair, un peu plus équitable, c'est pas mal équitable. Donc il y a plein de petits guides, plus ou moins longs ou pas. Et je retrouve, hein, en tout cas, je retrouve des choses qui me sont familières. Donc moi, je fais aussi passer des entretiens pour faire rentrer les gens chez Google. Donc par exemple, tu vois, il y a entraîner les gens qui font passer les entretiens. Donc c'est vrai que effectivement, on a des formations internes pour savoir comment faire passer un entretien. Qu'est-ce que je retrouve moi, qu'après, ouais, moi ça va être plus effectivement sur la partie entretien, comment structurer les entretiens, comment, alors attends, est-ce qu'il y en a d'autres d'intéressants qui me parlent à moi tout de suite? Alors c'est vrai que quand on embauche, justement, il y a des comités, donc il y a les différentes personnes qui font passer les entretiens, mais donc après on consolide le feedback, donc avec notre avis, est-ce que c'est quelqu'un qu'on pense que ce serait pas mal de l'embaucher, oh, celui-là, faut absolument qu'on l'embauche, etc. Mais après, il y a un comité qui re-regarde, du coup, en fait, il y a deux personnes qui ont mis celui-là, je veux l'embaucher, et puis l'autre qui a mis celui-là, je veux pas l'embaucher, on essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui peut faire la différence. Et voilà. Donc, tout un tas de pratiques qui peuvent être intéressantes si vous êtes manager, si vous embauchez des gens, et voir comment ça se passe chez Google.
C'est ça. Et ouais, puisque je voulais dire sur ce qui est aussi intéressant, c'est que il parle de process avec les étapes. Il parle aussi d'outils. Alors d'outils, c'est pas des outils de code. C'est des outils. Ça peut être des documents, des slides, c'est délivrable. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fonction du sujet, il y a à la fois la démarche. Ils expliquent toute la démarche de ce qu'ils font, comment le faire, etc. Et potentiellement, s'il y a besoin, des outils, mais effectivement c'est des livrables, on va dire, qui sont associés au sujet. Donc voilà. Donc oui, moi j'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas tout lu encore, mais j'en ai lu quelques-uns. Effectivement, comme pareil, moi je suis beaucoup sur le hiring et tout ça, mais je suis manager, donc là pour le coup, il y a plus de sujets qui m'intéressent. Mais voilà, non, j'ai trouvé ça très très bien fait. Donc c'est très bien de publier ce genre de retour sur les aspects managériels d'une boîte, comme Google, qui est assez grande.
Alors après, on peut quand même dire que tout le monde n'est pas Google. Et c'est pas parce que Google le fait que ça s'applique dans votre entreprise, mais c'est effectivement intéressant de savoir comment d'autres boîtes font pour voir s'il y a des choses dont on peut s'inspirer ou pas. Encore une fois, tout le monde n'est pas Google, et c'est pas parce que, c'est souvent aussi, tu sais, les sujets de scalabilité sur Google, comment on a fait. Ouais, mais on n'a pas le même scale, on n'est pas obligé de faire comme Google, hein, ou même c'est un anti-pattern de faire comme les gros acteurs, parce que s'ils l'ont fait, c'est qu'il faut qu'on fasse comme ça. Non, pas forcément. Donc apprendre à étudier, voir ce qui est bon pour vous ou pas.
C'est ça. Ça permet de comparer. Moi, c'est ce que j'ai fait par rapport à ce qu'on fait en interne chez Doctolib, et ça permet un peu de voir les choses potentiellement amélioré ou pas, mais effectivement, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Sécurité. Ah, la sécurité. Ça faisait longtemps. Cette fois, c'est sur Kafka, une CVE qui peut permettre ce qu'un client non authentifié, puisse faire un out of memory dans le broker. Donc,
Bloops.
Gloops. Gloops. Donc ça a été fixé, j'ai déjà oublié. Dagadak dagadak. Affected donc version 2.3.2.3.0.2.3.2.8.2, je sais plus lire. Ouh là là, c'est vieux. 2.8.2.3.0.2.3.1.2.3.2.1.3.2.3. Je vais jamais y arriver. Vous lisez le lien qu'on vous a mis. Mais en tout cas, donc upgradez votre Kafka parce que sinon vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Et je l'ai mis aussi dans l'aspect sécurité, c'est pas effectivement du dev et tout ça, mais c'est quelque chose que je trouvais intéressant, c'est Signal, donc Signal, le système de messaging qui est connu depuis X années pour notamment sur ces aspects dans sécurité, privacy et tout ça. Et donc Signal a décidé de retirer son support de SMS sur Android. Et le pourquoi c'est assez intéressant, parce que moi je m'en rendais pas compte puisque moi je suis sur iOS, donc on n'a pas ce comportement quand j'utilise Signal, je reçois sur Signal et ça me parlait pas. Mais en fait sur Android j'ai vu ça notamment avec ma frangine que elle SMS ou Signal ça arrive dans Signal, donc les deux sont mergés. Et donc le problème avec ça, c'est que finalement quand t'es dans Signal, tu sais plus trop si tu discutes avec la personne en Signal avec une avec l'encryption des données et tout ce qui va bien. Ou c'était juste en simple SMS et que donc ta privacy sécurité sont autant sécurisées. Et donc c'est pour ça ils disent on retire cette fonctionnalité qui était effectivement très appréciée du public, pratique parce que tu unifies et ils le disent clairement, ça a été un vecteur d'adoption de Signal énorme parce que pour les utilisateurs d'Android c'était t'avais une interface unique et t'avais à la fois tes utilisateurs Signal et tes SMS classiques, mais ils décident de revenir en arrière pour justement renforcer la sécurité parce qu'ils ont pas de bonne solution à proposer pour faire le distinguo facilement, etc. Enfin, ça rend trop compliqué la user experience. Voilà. Donc, juste des trucs intéressants parce que c'est toujours des trucs. Des fois, la sécurité, c'est aussi faire moins, c'est aussi faire différemment. Et j'ai trouvé ça intéressant, comme ils l'ont expliqué sur leur blog post. Alors, ça va venir. Hein, c'est pas encore le cas. Je sais plus. Ils ont donné des deadlines, mais ça va venir. Voilà. Donc, sujet intéressant pour. Se mettre un peu en distance des questions de sécurité.
D'accord.
Et on va terminer. Oh là là, on en est à une heure d'épisode. C'est un épisode où cette fois on n'aura pas besoin de le découper. C'est trop beau, franchement. on est bien. Ouais. On va finir avec les conférences. Ça a déjà été mentionné dans l'épisode qui vient de sortir cette semaine, les Kubernetes Community Days France qui ont lieu au mois de mars et qui le CFP est encore ouvert. Dans les CFP qui sont encore ouverts, il y a Touraine Tech qui lui finit fin novembre. Donc Touraine Tech c'est du 19 au 20 janvier de l'année prochaine. Et on vous a mis toutes les notes, on a essayé un truc, on verra si on continue ou pas, mais on va essayer de vous mettre les notes directement tirées des travaux faits par notre chère Aurélie, qui maintient une liste de toutes les conférences avec le statut des CFP, etc. Enfin, elle et la communauté, puisque tout le monde est libre de contribuer. Et donc on a automatisé un peu l'inclusion de son contenu directement dans les notes du podcast. Donc comme ça vous pouvez directement aller voir quels sont les CFP en cours et ce qu'il y a de disponible. Voilà. Donc les conférences à venir. L'autre que je voulais citer c'était Codeur en scène. Codeur en scène c'est le 17 novembre. Enfin, les inscriptions c'est gratuit. Donc viendez, c'est pas loin de Paris pour ceux qui veulent venir. Et le programme a été publié. Voilà.
Dans ceux qui sont listés, là, il y a BDXIO, moi je vais y aller, 2 décembre.
Oui.
Et j'ai soumis au Snowcamp aussi, je sais pas si ça fait pas mal de fois où je me dis « Ah, faudrait que j'y aille au Snowcamp », donc on verra si je suis pris. Et je crois que c'est tout. Ouais. Mais il y en a, par exemple, là, je voyais des gens qu'on suit sur Twitter, là, qu'on soumis, qui vont aller au Capitole du Libre à Toulouse, 19-20 novembre.
Ouais. Il y a tous les agiles, les agiles Grenoble, 23-25. Ouais. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses en fonction de vos, de où vous habitez, de ce que vous aimez. Il y en a un petit peu pour tout le monde. Bien sûr, Devox France.
C'est dans longtemps.
C'est dans longtemps, mais on va pas tarder à ouvrir CFP va ouvrir dans fin novembre. Donc, on y travaille déjà.
Déjà,
on commence déjà à passer au mois d'avril prochain. Voilà.
Yes.
Donc, on y va doucement. Bon.
Ça roule. Ben, merci à tous.
Merci tout le monde. Guillaume, À très bientôt.
À bientôt.
Passez une bonne journée.
Au prochain épisode. Et gros bisous à tous.
À bientôt. Bisous. Ciao, ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthemes.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.